Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de Talk CEC. Talk CEC, c'est un centre d'événementiel et une maison culturelle européenne située au cœur de Bruxelles. Dans nos podcasts, nous recevons des artistes, créatifs et partenaires pour discuter sur des thèmes environnementaux, culturels ou des expériences de vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Talk CEC. Aujourd'hui, nous avons encore un duo très intéressant avec nous, Ruben Vauca, illustrateur et graphic designer, et Michel Vincamp. Quand Michel a participé à la création d'une œuvre pour l'exposition Mer Océan, il était chef de service de sismologie gravimétrie à l'Observatoire de Belgique, et aujourd'hui, il est directeur du Musée des sciences naturelles à Ixelles. Vous vous en doutez, si on réunit ces deux personnes autour de la table aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont collaboré sur une fresque, une œuvre de manière générale pour l'exposition Mer et Océan. Bonjour Ruben.
Hello.
Bonjour Michel.
Bonjour.
Comment ça va?
Bon, ça va bien, je m'habitue à mes nouvelles fonctions.
Et moi ça va très bien aussi, merci.
Alors merci d'être avec nous pour ce podcast. Comme je le disais en introduction, vous avez travaillé ensemble pour l'exposition Mer et Océan. Alors ici, donc, l'œuvre se concentre sur les mouvements des plaques tectoniques et son influence sur les mers et les océans, fatalement. Est-ce qu'on pourrait commencer par une description de l'œuvre sur laquelle vous avez travaillé? Qu'est-ce que vous représentez exactement et pourquoi?
Ah, c'est une vaste question. Peut-être une introduction peut-être de Michel, savoir de quoi ça parle, parce que c'est ça qui m'a donné un peu l'impulsion aussi.
Ok. L'idée.
Oui, alors quand on parle de l'élévation du niveau moyen des mers, c'est vrai que c'est un problème réel et que la mer est, les océans sont en train de monter. Mais ce n'est pas le seul problème. Si vous êtes à la côte, la mer monte est une chose, mais il faut savoir aussi s'assurer que la côte, elle ne bouge pas. Or, si votre côte descend suite à je ne sais quel mouvement tectonique, ben vous amplifiez le problème. Inversement, si la côte monte, ben à la limite, vous n'avez pas de problème. Et ça, ça va dépendre très fortement des endroits où vous vous trouvez. Et donc, je pense que notre artiste a traduit ça très bien avec des hauts et des bas.
Tout à fait. Ça m'a parlé très fort, en fait. L'un des graphiques que tu m'as montré où on voit effectivement l'affaissement des côtes et la montée des eaux qui est une conséquence de ça. Et ça m'a très fort parlé parce que je me suis dit, quand on parle montée des eaux, c'était assez abstrait dans ma tête. Et je trouvais que ce graphique donnait vraiment une vision un petit peu très claire de ce qui se passait. Et ça m'a donné l'envie tout de suite de parler de haut et de bas. Mmh. C'est ça qui m'a donné un peu l'impulsion. Et puis après, la suite un peu du procédé de réflexion, c'est centrer un peu sur ce qui se trouve sur cette Terre. Parce que quand on dit on perd ce qui se trouve sur la Terre à cause des montées des eaux, ça restait abstrait. Mais moi, j'aime les musées, j'aime la culture. Et quand on dit qu'on perd des choses, c'est ça que je trouvais important de mettre en évidence. Donc j'ai voulu parler des musées qu'on perdait, de tout l'aspect culturel en tant que Belge, toutes les choses qu'on aime en tant que Belge qui disparaîtraient sous les eaux. Quoi. Donc mon œuvre met en scène toutes ces choses-là, donc les musées de Anvers, de Courtrai, de Zeebrugge, et encore un dernier dont je ne me souviens plus, sous les eaux en fait. Et il y a un petit côté dramatique, donc on voit des réflexions des musées dans des flaques d'eau, comme si au fond on n'avait plus accès au musée, mais vu que l'image est dans une flaque d'eau, l'image est inversée. Mm-hmm. Donc on a un peu cet effet en fait, que je cherchais avec le « up and down », « haut et bas », donc cette révolution entre le haut et le bas, et donc on a toujours cette impression d'être sous les eaux, et on ne peut plus vraiment marcher. Ma pièce est remplie de flaques, donc on ne sait plus trop où marcher. Il faut naviguer à travers tout ça.
Mmh. Il y a une belle mise en garde hein, dans l'expo, on ne peut pas marcher dans l'eau.
C'est ça, il y avait deux craintes à tout ça. Hein. Il y avait la première, c'est que les gens marchent dessus, mais aussi peut-être aussi expliquer aux gens que quand l'eau monte, on n'a plus trop d'endroits où se véhiculer, ni de quoi faire en fait, donc on ne sait plus vraiment marcher non plus.
Et j'aime beaucoup quand même la simplicité, ce qu'il y a toujours de mieux, c'est l'exploitation de l'escalier un peu raide avec ce up and down qui illustre tellement bien le problème.
Ça synthétisait bien l'idée et je reste graphiste aussi, donc j'aime bien donner du sens à ce que je fais et vraiment cette rencontre était chouette pour ça aussi. Clarissa m'a approché en disant faisons une pièce ensemble, quelque chose de cohérent avec la thématique, mais quand elle m'a proposé de faire quelque chose en duo avec un scientifique qui s'appelle Michel du coup, j'ai été ravi parce que ça donne du sens à ce que je fais beaucoup plus et ça rejoint un peu plus mon métier graphique de graphiste où on cherche à donner du sens à l'image beaucoup plus.
C'est réussi.
Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir.
Et, voilà. Et oui, c'est vrai que quand on pense du coup tectonique des plaques, etc., on pense tremblement de terre, je pense à volcan, je pense à éventuellement raz-de-marée, mais forcément, je pense pas qu'il y a il y a peut-être effectivement des lieux qui vont...
Oui, qui peuvent s'affaisser suite à des mouvements tectoniques, suite à des changements de charge. Il y a ce qu'on appelle le rebond post-glaciaire. En fait, jusqu'à 20 000 ans d'ici, le nord de l'Europe était couvert d'une immense calotte glaciaire qui faisait plusieurs centaines de mètres d'épaisseur. Et puis, cette glace a disparu. C'est l'âge de glace, hein, le dessin animé. Et en fait, il faut savoir que la croûte terrestre, c'est comme un bateau qu'on décharge. Si on enlève la charge, la croûte terrestre, elle remonte parce qu'elle a une certaine élasticité. Et donc, la Scandinavie, à l'heure où je vous parle, le centre de la Scandinavie remonte encore à la vitesse de 1 cm par an. C'est énorme, hein, c'est 1 mètre par siècle. Parce que suite à cette perte de charge, ben comme bon, il y a une élasticité, mais elle est quand même relative. Ça met un certain temps à reprendre sa forme. C'est comme lorsqu'on met son doigt dans le miel ou le sirop de liège. Quand on enlève le doigt, ça prend un certain temps. C'est visco-élastique en termes techniques. Et bien, la Scandinavie remonte, et le port de Stockholm, en fait, remonte à la vitesse de, disons, 8 mm par an. Et donc, eux, ils se fichent de la montée moyenne du niveau de moyen des mers parce qu'ils montent plus vite.
Ils montent plus vite que le...
Par contre, il semble que les dernières études semblent montrer que les côtes du nord-ouest de l'Europe, depuis la Hollande jusqu'à l'Aquitaine, par exemple, il y a une baisse de l'ordre du millimètre par an. Alors, quand vous dites que la mer monte de 3 mm par an, et qu'en plus, si Ostende, en plus, descend de 1 mm par an, ça vous fait un problème. Il y a d'autres raisons aussi à ces mouvements. C'est parfois beaucoup plus localisé. C'est ce qui se passe à la Nouvelle-Orléans. Si la Nouvelle-Orléans avait tant souffert du cyclone et des inondations, c'est entre autres parce que la zone s'abaisse liée à des pompages. Quand on pompe les aquifères ou les nappes de pétrole, ça peut faire baisser le niveau du sol. Ça peut être un problème dans beaucoup de régions côtières, à Shanghai par exemple.
C'est hyper intéressant. Je trouve ça hyper intéressant et ça rejoint très fort un peu ce que je disais au début. Quand on parle des mouvements des plaques tectoniques et des tremblements de terre, je crois que nos références à nous, c'est plutôt tous les films dramatiques, alarmistes, des choses très, très mal vues, on va dire ça comme ça. Mais quand tu m'as parlé justement de cette réalité en fait, qui est la nôtre, en tant que Belge aussi, ça m'a frappé tout de suite. Je me suis dit, ça, c'est un sujet dont j'ai envie de parler.
Et en plus, ça, c'est du lentement, mais sûrement.
Ouais, d'autant plus, c'est invisible à l'œil nu. Et ce graphique, qui pour moi était dramatique, hein, quand tu m'as montré ce graphique, je voyais ma côte descendre. J'ai dit, nom de Dieu, quoi. je veux parler de ça. Je veux parler du petit Belge qui est en train de perdre sa petite côte et donc tous les petits apports bénéfiques qu'il perdrait aussi.
Et alors là, il y a aussi un aspect anthropique dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est l'influence que l'homme a là-dessus. J'ai parlé des pompages, mais c'est aussi parfois simplement le poids des infrastructures. Une partie d'Anvers s'enfonce, visiblement liée aux nouvelles infrastructures portuaires. C'est le poids du béton qu'on a rajouté. New York, il y a une étude qui vient de sortir. On pense qu'une partie de l'enfoncement de New York, qui est aussi de l'ordre du millimètre par an, c'est le poids de la ville. C'est parfois aussi simple que ça.
Et donc, du coup, c'est quoi les...
Il n'y aura pas de solution.
Oui, c'est quoi les solutions à court terme ou à long terme?
Alors, là où on peut peut-être se rassurer, en tout cas dans le cas d'Anvers, c'est mes collègues de l'Institut Royal des Sciences Naturelles qui travaillent là-dessus, c'est que visiblement, le mouvement a tendance à se ralentir. Il y a un tassement qui finit par s'arrêter. Mais il n'en demeure pas moins que la rive gauche d'Anvers s'enfonce à la vitesse de quelques millimètres par an.
Peut-être qu'à un certain moment donné, ça va arrêter de s'affaisser parce qu'on aura atteint un certain équilibre.
Voilà, on aura atteint une certaine compaction. Par contre, à la côte belge, le problème, c'est qu'on ne comprend toujours pas très bien les raisons de ce mouvement. Est-ce que c'est lié au rebond post-glaciaire? On ne sait pas très bien. Ça, c'est encore à l'étude. Mais il n'en demeure pas moins que les gouvernements doivent prendre ça en considération quand ils planifient l'aménagement des côtes ou des ports.
C'est certain.
Vaste problème.
Oui, ça m'a tout de suite un petit peu interpellé et je trouve que c'est une problématique qu'on ne soulève pas tellement, pas beaucoup. C'était une chouette rencontre. Moi, j'ai beaucoup aimé cette rencontre avec Michel.
Et effectivement, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, peut-être parce que, comme tu disais, on ne va pas mettre ça dans un film. Ce n'est pas assez dramatique, ce n'est pas assez spectaculaire.
Mais au-delà de ça, je trouve justement que ça démystifie très fort le problème aussi. Parce qu'au final, quand je discute avec Michel, je vois que c'est très réaliste comme problème, très actuel aussi. Tu vois. Donc quand je vois les trucs américains qui, bam, boum, bim, ça explose, c'est très impressionnant, mais ça ne raconte pas grand-chose.
Ça m'interroge d'ailleurs sur le fait qu'à ma connaissance, je ne connais pas de film catastrophe sur des raz-de-marée causés par des tempêtes comme celle qu'on a eue en 1953, qui, je rappelle, a quand même fait 2000 morts, principalement aux Pays-Bas, mais aussi chez nous et en Angleterre.
Je te ferai une liste.
C'est souvent des tsunamis ou des météorites, mais là, c'est météo, ce raz-de-marée-là.
Ouais, je peux t'en citer quelques-uns, mais c'est souvent une conséquence de quoi. Ouais.
Ok, et du coup, s'il y avait un message à retirer, qu'est-ce que ce serait?
Il y a un message que j'aime bien, c'est de dire aux gens, payez les artistes tant qu'ils sont en vie. Et ça rejoint un peu mon idée, je crois, à travers cette œuvre d'art, c'est juste de dire, profitez de la culture tant qu'elle est là. profiter de nos petits plaisirs à nous en tant que Belges. Il y a plein de choses qu'on considère comme acquis quand on baigne dedans. Et oui, pour avoir eu l'occasion de m'extirper de ma culture quelquefois pendant longtemps, quand on y retourne, ça fait... Il y a un petit côté un peu plaisir, un petit peu plaisir coupable. Mmh. J'aime bien cette idée de revenir chez moi après un long voyage ou autre chose. Et oui, je savoure toujours autant les petits plaisirs de chez moi. Et donc oui, j'avais envie de parler des choses qu'on chérissait, mais qu'on a tendance peut-être à négliger à force de l'habitude, la familiarité.
Je suis content de te l'entendre dire, parce que maintenant que je suis directeur de l'Institut Royal des Sciences Naturelles, qui comprend le musée connu pour tous ses dinosaures, merci. C'est un rôle, une mission très importante qui m'est confiée, c'est de veiller au maintien et au développement de ce patrimoine que les gens parfois ne connaissent pas ou même méprisent, à faire en sorte que ça vive et le léguer aussi beau que possible, encore plus beau aux générations futures.
C'est exactement ça à quoi j'aspire, la culture, c'est tout ce que j'aime, c'est ce qui m'inspire le plus, c'est une envie très forte de transmettre depuis quelques années aussi, quoi. Donc on a envie de faire ça, je crois, à mon échelle, à celle de Michel aussi, et donc ce partenariat a été chouette pour plein de raisons, et dont celui-là aussi, quoi.
Ouais. Bah, revenons-en alors sur ce partenariat, cette collaboration. Comment est-ce que ça s'est passé entre vous, le fait... Tu m'as dit que vous n'étiez même pas vraiment rencontrés, que c'était que en visio.
C'est la première fois qu'on se voit.
C'est vrai. On n'en parle pas, mais c'est la première fois qu'on se voit.
Comment s'est passée votre rencontre virtuelle?
Ah, Michel, un petit mot, peut-être?
Je ne sais plus très bien. La première fois, c'était en visio ou par
c'était
mail?
C'était en visio complètement.
C'était en visio. Ben oui, j'ai un peu de... J'étais même à La Rochelle, je crois, à ce moment-là.
Oui, il me semble que tu n'étais pas encore.
Je travaillais avec l'Université de La Rochelle. Je pense que j'ai décrit mon travail et on est parti là-dessus.
Je confirme, on s'est rencontrés.
Je t'ai envoyé un slide ou deux ou quelques documents pour...
Un peu plus qu'une slide.
Je ne sais plus très bien.
Un peu plus. Un petit PDF d'une dizaine de pages, choses comme ça, que j'ai pris le temps d'éplucher et que je n'ai pas tout compris d'ailleurs.
C'est pas grave.
Avec ton appui derrière et tes explications, j'ai pu traverser le PDF. Et dedans, du coup, il y avait un de ces graphiques qui m'a vachement interpellé. Et c'est de là l'impulsion un petit peu aussi de créer quelque chose. Et ensuite, c'est dommage que ce soit pas filmé, parce que j'ai mon cahier avec les petites ébauches et les discussions que j'ai eues avec Michel aussi, au fond, qui me sert un petit peu de pied à l'étrier pour avancer derrière. Et j'ai fait un petit suivi ensuite. Donc, j'ai montré un peu à Michel via mail où j'en étais. On a discuté un petit peu de mon avancement, mon idée aussi avec cette simplification du problème autour d'un up and down avec juste deux flèches, a très fort plu à Michel.
Ça j'aime beaucoup. Je t'avais envoyé le slide où je mesure la mer avec une règle.
Non, tu n'as pas fait ça.
Je t'avais pas envoyé ça. J'avais fait une photo de moi qui me met au bord de la mer et je prends un mètre,
en voile. Faut que tu m'envoies ça.
C'était pour une conférence, pour illustrer, ça monte ou ça descend. J'avais aussi mis des flèches, mais ça, c'est beaucoup plus parlant ce que toi, tu as.
Merci beaucoup.
Mais moi, je ne suis pas graphiste.
On n'a pas tous. Chacun son truc.
J'ai la culture BD, mais bon.
On n'a pas tout. Mais c'était très chouette de synthétiser du coup cette idée à Michel, qu'il la reconnaisse aussi comme intéressante. C'était quand même un petit peu ça à quoi j'aspirais aussi, qu'il dise c'est intéressant, ça répond à ma problématique. Et moi derrière, j'ai profité un peu aussi de l'impulsion de Michel pour pouvoir l'installer en super grand sur l'escalier. Ma chérie m'a aidé à peindre, je tenais à le souligner parce que j'ai pas peint ça tout seul non plus. Mais c'était très chouette comme expérience et je crois que ça a plu. D'une manière ou d'une autre, ça a plu, oui.
Et de ton côté, du coup, cette collaboration avec un artiste, comment est-ce que tu l'as vécu?
Très bien, c'était pas la première.
Oh, j'allais te poser la question, c'était la première fois ou pas?
Non, j'avais pas parlé, j'avais fait ça avec les studios Peyo.
C'était
c'était le même genre de situation. J'explique à l'artiste, des dessinateurs des studios Peyo, tiens, voilà l'instrument. Et il m'en a fait livrer sa vision. Mm-hmm. Et ça m'a bien fait rire. En plus, il avait rajouté des choses personnelles. Et j'étais très content parce que j'avais expliqué le problème et puis il l'avait mis à sa sauce. Et,
C'est toujours ça qui est agréable quand tu as quelqu'un qui donne un input un peu différent de ce que tu aurais fait. Tu ne l'aurais pas créé toi-même, en fait. C'est un peu ça qui est toujours chouette.
Et j'irai plus loin. J'ai quand même une longue carrière maintenant avec les journalistes. Et quand ils prennent un peu le temps de venir filmer ou quoi, par temps en temps, ils me demandent, tiens, mais comment est-ce qu'on filme? Moi, je leur ai toujours répondu, moi, je fais mon métier, je parle, réponds à vos questions, le reste, c'est votre boulot. Et j'ai parfois des séquences de montage qui sont... Ou même de la façon dont... combien de fois ils sont venus filmer un même lieu qui est une station dans un tunnel. Et à chaque fois, ça donne une séquence différente parce que le réalisateur ou le caméraman fait un autre montage, des autres prises de vue. Ouais. Et c'est chaque fois amusant. Et voilà.
On ne le referait pas si c'était toujours la même chose. Je crois que c'est un peu ça aussi. Ça reste intéressant de le proposer, de le remonter différemment aussi, ne fût-ce que pour intéresser de nouvelles personnes.
Et du coup, dans ce cas-ci, comment ça s'est passé? Je veux dire, t'as vu les plusieurs ébauches.
Mais une fois, ça s'est livré à un one-shot d'ébauche, les crayonnés qui sont peut-être là.
Oui, ils sont tous là,
Et ben voilà, j'étais content.
Et qu'est-ce que t'as pensé quand t'as visité la pièce en question, l'escalier en question?
Ah, j'aurais bien aimé être là, voir tes petits yeux s'allumer.
Ça me parlait, c'était bien. J'étais content.
Il a posé devant le up and down.
Oui,
ça,
voilà.
Ah, ça, j'étais très content.
Ça, je vais la réutiliser.
Ah, moi aussi, t'inquiète pas. Je vais la réutiliser, cette photo, ça me fait de la pub. Très chouette, très chouette.
Non, bah, d'ailleurs, à la conférence que je dois donner ici le 4 juin, bah, je vais l'utiliser, évidemment.
Je serai là. Je serai là
aussi. Et je montrerai le slide, ma version d'avant et la version...
Avec plaisir.
Je ne sais pas comment il faut t'appeler, en fait.
Comme tu veux. Comme tu veux, tu peux m'appeler Ruben ou tu peux m'appeler Phil, c'est comme tu préfères. Comme tu veux.
C'est quoi, dans l'état civil, c'est quoi finalement?
C'est Philippe, c'est Philippe. L'état civil, Philippe. Et après, quand on discute entre gens civilisés, je préfère Phil.
Phil ou Ruben.
Bon, okay. Ruben étant ton nom d'artiste, du coup.
C'est ça, Ruben Voca pour le nom complet. Et si tu veux l'historique de tout ça, Ruben, c'était le nom que mon professeur de dessin me donnait à l'époque parce qu'il trouvait que je dessinais comme une machine, ce qui m'a toujours énervé. Et l'autre nom, Voca, c'était la première personne qui m'a appris à faire du graffiti. C'est une forme de double dédicace, tu vois ça comme ça, tu vois. Okay. C'est resté, c'est toujours resté. J'en ai eu d'autres, hein, des petits
ça
noms d'artistes.
Ça ne fera pas le rapport Ruben et machine
Rubens. Rubens dessinait comme une espèce de petit automate un petit peu sec et ça énerve. Enfin, mon prof à l'époque était psychorigide à mort et il disait tu dessines comme une machine, c'est-à-dire que je regarde pas en fait ce que je dessine, mais je le reproduis à l'identique sans mettre d'émotion.
Ouais,
et ça l'énervait un peu. Donc ouais, on était un petit peu en conflit et après j'ai appris à aimer la critique, quoi. On dit ça comme ça, quoi. Et on est resté dans mon terme, on est resté en bon terme. Oh. Ouais, difficile le parcours artistique, c'est pas un métier... C'est un métier de passion.
Mon travail n'est pas plus simple, hein, scientifique. Quand on rédige des articles, on se fait critiquer par les pairs ou parfois je soumets certaines idées ou présentations à des collègues et ça revient criblé de rouge. La fierté doit toujours... chaque fois surmonter ça.
C'est vrai que c'est au fond un exercice assez similaire par rapport à ça. Les critiques, tu les subis constamment aussi. Quoi.
Ah oui.
Et tu te sens obligé de corriger derrière? Parce que moi, mes critiques à moi,
ça dépend si elles sont fondées, oui, mais souvent elles le sont. Vous dites, ou bien quelqu'un me dit « j'ai pas pigé ça », au premier réflexe, on a envie de dire « quel abruti, il comprend rien à ce que j'écris », puis on réfléchit.
Ou tu t'es mal exprimé.
C'était peut-être pas si clair
Pas si clair. Ouais.
C'est l'un ou l'autre. Hein. Parfois, on n'a pas tous les bases pour comprendre ce qui est dit aussi.
C'est ça. Peut-être qu'on n'a pas tous, effectivement, les
parfois, c'est juste mal torché.
Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, ça.
J'ai pas de problème à le reconnaître.
Non, à l'inverse, les critiques artistiques, c'est des goûts et des couleurs, en fait. Hein. Tu vois, tu peux dire « j'aime pas la couleur, j'aime pas la composition, j'aime pas ce que tu proposes, en fait, visuellement aussi, parce que j'aime pas les chiens, j'aime pas les gens tout nus. » Ça, c'est une critique qui me revient souvent, c'est « dessine des gens habillés ». Quand tu es nu, en général, tu es l'un ou l'autre, sexualisé ou dans un contexte médical. Et moi, je proposais juste d'être nu pour être nu, quoi. Être beau nu, simplement.
Enfin bon, on s'éloigne peut-être du niveau de la mer, si ce n'est que si la mer montre, il vaut mieux se mettre tout nu. Mais...
il vaut mieux être apparé, quoi. Voilà. Sorry pour divaguer un peu.
Ok, revenons un peu sur le sujet.
De la tectonique des plaques au nu artistique, voilà.
Ça, c'est le titre de l'épisode.
C'est vraiment... Ouais, je suis désolé pour ça.
Pourquoi pas?
Alors, une question que j'aime bien poser, c'est l'utilisation de l'art pour la communication scientifique, car finalement, c'est un peu le principe de cette collaboration et de l'exposition dans son ensemble. Du coup, est-ce que vous pensez que cette collaboration pourrait se répéter et véritablement aider à faire passer des messages plus scientifiques à la population avec une méthode, je dirais, plus belle, mais aussi peut-être plus pédagogique dans sa manière?
Déjà, la démarche de TalkCEC, c'est vrai que c'est assez original. Au début, je me demandais vraiment dans quoi je m'embarquais. Je me suis dit, allons-y, on verra
moi
bien.
Aussi. Moi aussi.
J'ai dit à Clarissa, faites votre métier. Moi, je fais ce que vous me dites de faire. Voilà. Et puis, on m'a mis en contact avec le monsieur à côté de moi. Et voilà.
Tout idem.
Je pourrais rêver de ça à chaque fois que j'ai un congrès scientifique, avoir un graphiste ou un artiste qui me fait mes slides. Mais bon, le problème, c'est que je ne suis pas sûr que les budgets de la politique scientifique puissent... il faut quand même rémunérer ces gens-là. Et ça deviendrait quand même des présentations très luxueuses.
Je comprends tout à fait. Après, je ne vais pas faire de la pub aux gens, mais je connais des boîtes où tu peux engager des illustrateurs et des graphistes qui font des dessins en live pendant que tu parles.
Je sais, ça c'est fait.
Incroyable,
ça c'est fait. J'ai fait que j'ai un collègue qui a fait ça en sismologie. J'ai vu le résultat, c'était très chouette.
C'est très chouette, ça fait un peu un espèce de doodle comme ça, un peu condensé sur un table board, mais ça reste très graphique, c'est très agréable à regarder.
le fait que tu aies changé de job récemment, ça illustre que tu avais déjà peut-être ce goût pour l'art et la science en même temps, et ça se réunit maintenant dans ton nouveau job.
J'allais le dire aussi, ça.
Quand j'ai postulé à l'Institut...
C'était une envie de ta part,
Non. C'était une envie, je dois mon poste à personne, à part à moi-même, si j'ose dire. Et ce qui m'avait attiré, entre autres, c'était l'aspect musée. Bon, l'Observatoire Royal de Belgique, on vit un peu refermé sur nous-mêmes. On a bien le planétarium, mais qui est déjà physiquement séparé. L'Observatoire est responsable du planétarium du ASL. Et donc, il n'y avait pas ce contact avec le public. Et ici, aujourd'hui, on est lundi, c'est mon mauvais jour à l'Institut parce que le musée est fermé. Je dis c'est mon mauvais jour parce que moi, je suis tellement content les autres jours de la semaine de voir quand je sors de mon bureau, je suis directement à l'accueil et on voit ces groupes d'enfants enthousiastes, ça fait un peu de bruit. Je trouve sa vie et on les voit contents. Il y en a même qui m'ont déjà abordé pour me dire spontanément qu'ils trouvaient ça chouette ici. Et quand vous entendez ça, ça vous fait votre journée.
Ouais, je comprends. C'est de la transmission, c'est le plaisir de vouloir montrer aux gens ce qu'on fait aussi. C'est très agréable d'avoir des retours positifs, que ce soit des enfants ou autres. Et donc, c'était smooth, ça fait 2 mois.
Deux mois, oui.
Comment ça se passe ?
Bien, j'ai été bien accueilli. Je découvre. C'est un gros institut, c'est 400 personnes. C'est 2 fois plus que l'observatoire d'où je viens. On est responsable, les gens ne le savent pas, mais du Belgica, d'où le lien avec la mer aussi. Beau navire tout neuf de recherche océanographique. L'avion renifleur, le fameux avion qui vient contrôler les émissions des bateaux qui croisent au large de la côte et qui fait bien d'autres missions.
Très vrai.
Donc je suis responsable de ça et c'est passionnant. Il y a le musée et c'est un institut de recherche. Il y a 170 scientifiques qui travaillent ça. Les gens le savent aussi. Et donc, par exemple, on a des points forts en tout ce qui est biodiversité. On travaille énormément là-dessus, aussi en géologie, d'où l'aspect science de la Terre qui ne m'était pas étranger. Et aussi le climat. On fait aussi des recherches sur les... Quand on vous parle de dinosaures qui sont morts, c'est de la recherche climatique aussi. Pourquoi sont-ils morts ? Parce qu'il a fait visiblement hiver nucléaire après la chute de la météorite. Tout ça, c'est des recherches d'interaction climat-vivant sur lequel on a des équipes qui travaillent. En fait, les iguanodons résument toutes les questions que je peux avoir. Quand je me mets sur y a la mezzanine et que je le regarde dans les yeux, je ne peux pas me lasser de faire ça. Chaque fois que je vis dans le musée, je passe par là. C'est les mystères de la vie. Pourquoi est-ce qu'on a eu des animaux pareils ? Et puis, ils ont disparu. Et puis, on a eu autre chose. Et eux-mêmes n'étaient finalement qu'un épisode qui a pourtant duré plusieurs dizaines de millions d'années. Ils ont déjà duré, rien que le règne des iguanodons, c'est plusieurs millions d'années. Ce n'est qu'une espèce de dinosaure finalement épisodique parmi tout le règne des dinosaures. Pourquoi est-ce qu'on a ces animaux ? Pourquoi ont-ils disparu ? Il y a cet aspect, sans doute vraisemblablement la météorite et donc ces changements, bouleversements climatiques. Il y a aussi l'aspect géologique. Tiens, ce troupeau est mort à un moment donné. Pourquoi est-ce qu'on les retrouve 300 mètres sous terre dans une mine de charbon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Quels sont les plis tectoniques ? Et tout ça, c'est toutes les questions de tout ce qu'on étudie à l'Institut qui se résument dans le seul regard de cet animal qui vous regarde. Mais ça, c'est peut-être un message que j'aimerais faire transmettre.
Quand tu parles, tu me fascines. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses et j'aime encore plus l'histoire, que ce soit l'histoire de l'homme ou l'histoire en général. Moi, j'adore ça. C'est vraiment ce qui me motive de fou dans ce que je dessine, dans ce que je crée, la culture. Je crois que c'est une passerelle intéressante quand tu fais un truc avec un artiste, parce que pour le peu qu'il soit un peu intéressé par ce que tu fais, peut-être que le mélange des deux peut faire quelque chose de très, très vivace, quoi. C'est chouette, toujours ce mélange des choses et d'avoir envie de transmettre, d'apprendre des choses, quoi qu'il arrive. Je crois que ce soit un musée, un artiste, un musicien, un scientifique, je crois que quand tu es... C'est des métiers de passion, je crois, quoi qu'il arrive aussi, quoi fort. Et quand quelqu'un est passionné, tu le sens et il y a une envie d'écoute, il y a une envie de rester là et de s'imprégner un peu de l'imaginaire de l'autre et de ce qu'il a vécu et comment il le transmet aussi. Ouais.
Les scientifiques ne sont pas toujours des bons communicateurs parce qu'on ne peut pas avoir tous les talents. Il y a un peu un côté comédien dans nos présentations, à la limite vendeur de voitures. J'en parle d'autant plus librement que je parle de moi-même. Il y a un côté chaud et c'est vrai que si les artistes pouvaient aider certains collègues qui ont un peu du mal à s'exprimer, à faire passer leurs idées, ça...
Le message est lancé, hein. Ouais. Ça, vraiment, c'est quelque chose, je crois, qui est bénéfique pour tout le monde. J'y vois du sens, fort.
Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme mot de la fin ?
Je ne sais pas. Peut-être dire que c'était une très chouette expérience pour tout le monde. J'ai l'impression, autant pour le talk que pour nous, et que c'était enrichissant de pouvoir discuter avec des gens qui ne font pas la même chose que nous, et de réussir à trouver un moment un peu convivial autour duquel tout le monde se rassemble autour du même idée. Je crois. Le talk a besoin de présence artistique.
Ouais.
Moi, j'avais besoin de donner du sens à ce que je faisais aussi. Et tout le monde y trouve son compte derrière, au final, une seule exposition, 50 artistes, des dizaines de duos d'artistes scientifiques. Je crois que c'était une expérience agréable.
Oui, et bon, je suis assez étonné de voir ce que dans ces anciens magasins de Mulder, que je connaissais de, du temps de leur splendeur porcelaine et argenterie, de voir ce que ça a pu donner. Et je dois dire que cette séance radio de ce matin, je dois dire que c'est une expérience tout à fait inédite pour moi et vraiment très chouette.
Idem, idem.
Ah, merci.
C'était chouette. Hein.
Michel
C'était
toujours
chouette.
Agréable. Toujours agréable de discuter avec des gens agréables.
Eh ben parfait, je vous remercie et j'invite bien sûr les auditeurs à vous attarder peut-être sur ces flaques d'eau qui nous rappellent ce qu'on risque
les flaques
de
d'eau,
perdre.
Ouais, les flaques d'eau dramatiques installées dans ma salle à moi, Up and Down, voilà. En collaboration avec Michel. Et moi, c'est toujours @RubenVoca sur les réseaux sociaux aussi.
Merci, au revoir.